Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La croix et la bannière. Trouver du carburant est devenu une épreuve de patience. 15% des stations-service sont à sec. La grève des raffineurs qui réclament une hausse des salaires empêche l'approvisionnement des pompes depuis 10 jours. Bonjour Nina Droff.
Bonjour.
Vous êtes en direct pour Europe 1 depuis une station Total à la porte d'Aubervilliers sur le périphérique parisien. Depuis 4 heures du matin, de nombreux automobilistes font la queue pour espérer avoir quelques litres d'essence.
Oui, tout à fait. Moi, je suis là depuis 5 heures du matin et ça ne désemplit pas. Au contraire, la file d'attente s'allonge même jusqu'à déborder sur la voie du périphérique. Il faut dire qu'ici, il n'y a plus que quelques pompes qui sont encore ouvertes. Amine essayait de faire le plein depuis 3 jours et après de longues minutes d'attente, il a enfin réussi.
Allez, on va dire 45 minutes là. J'ai craqué. Je suis venu de bonne heure là ce matin, je me suis levé, j'ai dit je vais tenter. Ah oui.
Mais certains n'ont pas cette patience et préfèrent risquer des carburants même inadaptés à leur véhicule, comme Youssef qui doit absolument remplir le réservoir de son camion professionnel.
Ah, c'est une galère. Là, j'ai pas d'essence, il n'y a nulle part de l'essence. 3 stations depuis 4 heures du matin. C'est du gazole, je dois mettre pour pas tomber en panne justement. Mais je cherche de l'essence, je trouve nulle part de l'essence. Ça devient très dur.
On voit aussi énormément de gens remplir des jerrycans, des bidons pour tenir le reste de la semaine ou pour d'autres personnes.
Pour dépanner un camion. Vous savez, j'ai du camion qui sont en panne de gasoil, 2 camions.
Bah, parce que j'ai un collègue qui, lui, n'a pas cette chance-là d'avoir une station à côté. Et donc, c'est une manière de aider un collègue.
Et quand on leur parle de la grève ou des raisons de la pénurie, beaucoup avouent ne pas vouloir s'y intéresser. Ils sont surtout focalisés sur leur objectif, obtenir du carburant.
Merci Nina Droff depuis la porte d'Aubervilliers à Paris pour Europe 1. On l'entend, les automobilistes agacés n'ont, semble-t-il, que faire des raisons de cette grève. Et pourtant, ça fait déjà 10 jours que les dépôts pétroliers les plus importants du pays sont bloqués. Bonjour Maximilien Carlier.
Bonjour Fanny, bonjour à tous.
Correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France, région la plus touchée par cette pénurie de carburant. Chez vous, on a même dû puiser dans les stocks stratégiques. Les autorités ont réquisitionné certaines stations pour les secours. Vous vous trouvez, Maximilien, devant le dépôt de carburant des Flandres, dépôt Total à Dunkerque, l'un des plus importants des Hauts-de-France.
Effectivement, il y a ces cuves énormes remplies de carburant juste devant moi. Capacité totale, un peu moins de 3 millions de mètres cubes. Rendez-vous compte, ce dépôt pétrolier représente près de la moitié des stocks de la région. Sauf que rien ne sort d'ici, tout est bloqué. Aucun camion, alors qu'habituellement il y a tous les matins des va-et-vient de poids lourds qui alimentent les stations-service. Et ce blocage dure depuis plus de 10 jours maintenant.
Maximilien, quelle est l'ambiance autour de vous devant ce dépôt ?
Alors ici, pas de piquet de grève, on ne brûle pas de pneus. Il y a 130 employés en CDI dans ce dépôt et entre 80 et 100% de grévistes. Leurs revendications, augmentation des salaires, plus d'investissements sur le site. Cédric Decriem, secrétaire du CSE CGT.
Le but n'est pas de, entre guillemets, faire chier la population, loin de là. Malheureusement, c'est l'impact qui est causé par la grève. Aujourd'hui, on a une inflation qui est à hauteur de 10%. 10% d'inflation, c'est 10% de perte de pouvoir d'achat. Si on fait l'étal sur l'année, c'est comme si on perdait un mois de salaire sur 12 mois. Il y a aussi une volonté, c'est une de nos revendications, c'est de pouvoir avoir des investissements sur les sites français et notamment sur le nôtre avec un projet industriel viable.
Mais pour l'instant, Total Energy reste fermé aux négociations d'après ce représentant syndical. En tout cas, du carburant, il y en a ici et pour en sortir, insiste-t-il, pour sortir de ce bazar, il faudra un effort de la direction.
Maximilien Carlier depuis le dépôt de carburant des Flandres à Dunkerque pour Europe 1.
8h05, une pénurie d'essence qui force à faire des économies, bien sûr, rouler moins. Bah, c'est justement l'une des 15 mesures du plan de sobriété présenté hier par le gouvernement.
Se chauffer moins, s'éclairer moins aussi. Objectif pour l'exécutif, que la France consomme 10% d'énergie en moins. Condition sine qua non pour un hiver serein. Parmi les recommandations d'Elisabeth Borne hier, le télétravail. Mais ce n'est pas si simple, Baptiste Morin. Pour que le travail à distance ait du sens, il faut réunir plusieurs conditions.
Oui, selon RTE, pour une réelle efficacité, il faut que tous les employés d'une entreprise soient en télétravail en même temps, afin que le bâtiment soit totalement vide. Et il faut en plus que cela se prolonge sur plusieurs jours d'affilée. Dans ce cas-là, et seulement dans ce cas-là, l'Agence de la transition écologique estime l'économie d'énergie à 19% pour l'entreprise. C'est important, mais dans les faits, c'est quasi impossible. D'abord, parce que 2/3 des Français ne sont pas éligibles au télétravail. Et autre obstacle, s'il permet des économies sur le lieu de travail, le télétravail fait logiquement augmenter la consommation à domicile. La preuve, lors du premier confinement de mars à mai 2020, les émissions de CO2 ont baissé dans tous les secteurs, sauf dans le logement où elles ont augmenté de 30%. Le télétravail permet surtout d'économiser les émissions de gaz à effet de serre liées au trajet domicile-travail. Alors le gouvernement va mener une expérimentation. Le ministère de la Transition écologique va fermer 4 de ses sites pendant 4 jours. Les résultats décideront d'un pan du plan de sobriété.
Baptiste Morin du service économie d'Europe 1.
8h07. Le monde court un risque d'apocalypse nucléaire. La déclaration de Joe Biden cette nuit qui prend les menaces russes décidément très au sérieux.
Le président américain n'a pas caché son inquiétude hier soir à New York devant des donateurs démocrates. Bonjour Alexis Guilleux.
Bonjour.
Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Joe Biden n'a pas l'habitude de mâcher ses mots quand il s'agit de la Russie, mais apocalypse, c'est le terme le plus fort qu'il ait jamais utilisé depuis le début de la guerre en Ukraine il y a 7 mois.
Oui, le président américain n'était jamais allé aussi loin dans ses avertissements. Le risque d'une telle apocalypse n'a pas été aussi élevé depuis la crise des missiles de Cuba il y a 60 ans, dit Joe Biden, tout en précisant que Vladimir Poutine ne plaisante pas quand il menace d'utiliser des armes nucléaires tactiques ou biologiques. Une aggravation dans le ton. Personne, ni au Pentagone, ni les conseillers à la sécurité du président n'ont prononcé de tels mots ces dernières semaines, même si les États-Unis ont toujours dit prendre très au sérieux les propos du président russe. Hier soir, Joe Biden s'est surtout montré inquiet du risque d'une escalade incontrôlée. L'utilisation d'une arme nucléaire tactique pourrait déclencher un engrenage aux conséquences plus dévastatrices. Car le constat est clair, l'armée russe perd du terrain, elle sous-performe considérablement selon les mots de Joe Biden, qui a décrit un Poutine acculé. Comment peut-il s'en sortir? Comment peut-il se positionner de façon à ni perdre la face, ni perdre une portion significative de son pouvoir en Russie? Alors on ne sait pas si ces déclarations du président correspondent à de nouvelles informations qu'auraient les Américains. La Maison-Blanche assurait encore cette semaine n'avoir aucun signe de l'usage imminent d'armes nucléaires par Moscou.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Les pays d'Europe réunis aujourd'hui à Prague, en République tchèque, pour la première réunion de la CPE. Ils ont profité hier de cette réunion pour annoncer une mission civile qui partira entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, à la frontière entre les deux pays où les tensions sont de plus en plus vive, mission qui durera 2 mois maximum. Il est 8h08 sur Europe 1. Savez-vous, Dimitri, quel est le plus vieux monument de Paris ?
Aucune idée, bonne question. Tiens.
Eh bien, c'est l'obélisque de Louxor qui s'élève depuis 1836 sur la place de la Concorde.
Produit d'importation.
Son âge, 13 siècles avant Jésus-Christ quand même. Cadeau de l'Égypte, effectivement, à la France, mais qui symbolise notre amour historique pour cette civilisation. Vendredi thématique sur Europe 1 consacré aujourd'hui à cette fascination tricolore pour l'Égypte ancienne. C'est d'ailleurs un Français, Jean-François Champollion, qui a découvert comment lire les hiéroglyphes. C'était il y a 200 ans. Et aujourd'hui encore, les descendants de cet archéologue reconnu dans le monde entier entretiennent son héritage. Thibaut Hue.
Champollion, si vous avez ce nom de famille-là, vous vous intéressez d'où il vient, quels sont les gens qui le portent et qu'est-ce qu'ils ont fait.
Étienne Champollion connaît naturellement tout de son grand-oncle Jean-François Champollion. 6 générations les séparent, pourtant il assure que l'histoire de l'égyptologue traverse toujours la famille.
Il y a une dimension symbolique parce que la famille s'y intéresse et que ce qui nous touche un peu, c'est qu'en fait c'est une famille qui était du fin fond de l'Isère, on y est resté, on est toujours là-bas quelque part, donc on a encore ce lien. Pour nous, je pense que c'est important, ça nous raccorde un peu plus symboliquement à cette histoire.
Sur les terres de leurs ancêtres, les Champollion ont conservé un lien très étroit avec l'Égypte. Étienne, lui, devenu musicien, se passionne pour la musique du temps des pharaons. Il jouera d'ailleurs au Caire pour le bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes.
Nous, ça nous permet de mettre en lumière notre travail sur le répertoire franco-égyptien et sur le redéchiffrement des musiques antiques coptes, ce qu'on a de plus proche par rapport aux musiques antiques de l'Égypte ancienne, et de le remettre un peu au goût du jour.
Ses doigts sur le clavier d'un piano, accompagné par les notes d'une flûte traversière, il sera sur scène dimanche pour entretenir la flamme de l'histoire de son grand-oncle.
Magnifique.
Allez,
reportage.
Laissons écouter un peu parce que... Je trouve fascinant d'avoir cette musique égyptienne proche de ce qui se jouait à l'époque. C'est très éloigné de l'image musicale qu'on a spontanément, qui est en fait assez arabisante.
C'est vrai.
Voilà, c'est très intéressant.
Rien à voir. Reportage donc signé Thibaut Hue. La France, grande amoureuse de l'Égypte, c'est le vendredi thématique d'Europe 1, à retrouver sur l'application Europe 1 et sur europe1.fr.
Et effectivement, et restez avec nous parce qu'à 8h40, deux grands experts de l'Égypte seront avec nous. Vincent Rondeau, directeur du département des antiquités égyptiennes du musée du Louvre, et Olivier Perdu, égyptologue attaché à la chaire de civilisation du Collège de France. Voilà pour le programme. Merci Fanny. 8h11.
Merci à vous.
Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, est l'invité d'Europe Matin dans un instant.